Hello tout le monde, c'est Léa et bienvenue à l'émission Thermostat 2.1. Je vous souhaite à tous un très très bon début d'après-midi. Merci d'être avec nous sur Radio Alpha. Et un samedi de plus avec toujours la même équipe à mes côtés, Tony, Julie et Antonin.
Les meilleurs.
Boa tarde.
Salut tout le monde.
Alors cette semaine, on reçoit Christelle Avesmera, actrice, scénariste, metteuse en scène et réalisatrice franco-portugaise. Elle sera avec nous en studio jusqu'à 16h. Hello Christelle.
Bonjour à tous. Hola.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on est en plein dans l'actualité puisque ton premier long métrage intitulé Alma Viva sort en salle en France ce mercredi 12 avril.
Oui, je suis très très contente, j'attends ce moment depuis un petit moment puisque le film a commencé sa carrière au Festival de Cannes en mai dernier. Il est sorti au Portugal dans les salles en octobre et là, voilà, c'est une très bonne nouvelle de sa sortie en salle dans quelques jours, le 12 avril.
D'ailleurs, c'est le film qui représente le Portugal aux Oscars.
Oui, on a été choisi par l'Académie du cinéma portugais donc pour être candidat et représentant du Portugal aux Oscars. Et c'était un très bon signe pour le film. C'était la première fois qu'une réalisatrice franco-portugaise comme moi, c'est-à-dire que moi je suis née en France de parents portugais, donc j'ai la double nationalité. C'était la première fois qu'une personne de Luso représentait le Portugal aux Oscars. Donc c'est un bon signe, ça veut dire qu'on reconnaît aussi l'histoire de l'immigration. Donc j'étais très fière de ça, oui.
Et nous en tout cas, on est très fiers de toi aussi. Alors on va en parler justement, on va parler de ton parcours, on va parler d'Alma Viva au moment de l'interview. Mais avant, on va discuter entre nous. D'ailleurs, dans le prochain quart d'heure, on écoutera Nota de Fulandeniao. Il y aura aussi Secret de Louane.
Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse.
Mais avant, on va s'écouter Rosaline Slap, un son qu'on entend partout hein, depuis 3 semaines. Alors restez bien avec nous, puisque dans quelques instants, on va jouer au blind test comme chaque semaine. C'est le rituel en début d'émission. A tout de suite sur Radio Alpha.
It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lied. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. I'm writing a song. So this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping 1, 2. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2. Where are you?
Yeah. C'était Snap de Rosaline et c'est le moment du blind test sur Tiamstad 2.1. Alors à nos côtés aujourd'hui pour nous aider, Christelle, Alves, Mera. Alors est-ce que tu es habituée à faire quelques blind tests chez toi ou entre amis?
Non, pas vraiment. Je suis plutôt assez mauvaise, ouais. Mais je vais jouer le jeu avec grand plaisir. C'est un grand défi là.
Et aujourd'hui en plus on a un thème.
Et oui. Le thème aujourd'hui, on va se concentrer sur les films Disney. Alors du coup, est-ce que vous avez déjà vu des films Disney ici?
Oui.
Oui, moi j'en ai vu plein, c'est cool.
Super.
Voilà.
Moi, déjà, que je peux.
Vu qu'ils possèdent à peu près la moitié du marché, c'est assez facile.
Attends, on n'a pas eu la réponse de Tony, tiens.
Mais bien sûr, je l'ai vu.
Oui, Tony nous a dit juste avant qu'il n'était pas très au courant de toutes les musiques Disney. On verra comment il s'en sort cette fois-ci.
Ça, on va lui donner envie de les regarder.
Oui, c'est ça, c'est ça. En tout cas, aujourd'hui, on va se prendre en profiter pour se remettre dans une bonne vibe, des vibes de films d'animation Disney. Et on va écouter plusieurs de ces musiques de films, parmi les plus iconiques. Et je suis curieux de voir combien vous allez en trouver. D'ailleurs, pour vous compliquer un peu la tâche, je vous ai mis les chansons, pas en français, pas dans la version originale non plus, mais en portugais. Moi, perso, je ne les ai pas regardées en portugais.
Ça va aller, c'est le même.
Ça devrait
Moi,
aller.
Moi, je connais Japasso.
Et écoute, on verra si elle est là. En tout cas, j'espère que ça ne va pas vous retourner le cerveau. Et bonus à ceux ou celles qui arriveront à trouver à la fois le titre en français et en portugais. Et évidemment,
déjà,
le nom du film.
D'accord, trouver des titres en français, voilà.
Voilà, voilà. Est-ce que vous êtes bon?
Oui.
C'est parti maintenant pour le premier extrait. Ranaïa.
C'est Ariel, ouais, c'est Ariel. Sous l'océan, et du coup en portugais c'est Akinuma.
Et bien vu. C'est Allez. La chanson du petit crabe Sébastien, ou Sébastien en portugais, ils sont pas foulés pour la traduction. Mais oui, c'est sorti en 1989. Ça a marqué un peu le renouveau de Disney en matière d'animation, parce qu'il y avait eu un petit creux dans les années 60-70. Et c'est ce qui a relancé Disney dans sa machine. Et en tout cas, c'est parti maintenant. Exactement, quel succès aussi, hein, on va pas se cacher. Ça a été un film monstrueux, enfin pas monstrueux, monstrueux dans ses
lignes.
Évidemment. En tout cas, c'est parti maintenant pour un film un peu plus récent.
Alors, c'est Bayana, c'est, comment il s'appelle ? Maui, qui chante, en français, c'est « Vous les hommes », en portugais, c'est, non, en portugais, je sais pas, mais en anglais, c'est « You're welcome », et du coup, je pense qu'en portugais, il disait quoi ? « Donad », non ?
Bah écoute, je peux te laisser ma place.
Allez, non, je vous dis les Disney. Si ma famille m'écoute, je suis obligée de leur faire honneur. Ils adorent ça. Mes cousins, on le passe pour aller à Disney toute l'année quand ils veulent. Hein,
aïe. On n'a pas tous la même midi, mais en tout cas, on a tous vu Vaiana, la légende du bout du monde. C'est sorti en 2016 et c'est inspiré par les mythes polynésiens. Bon, comme vous le savez sûrement. Mm-hmm. Et le personnage qui chante la chanson, tu l'as bien dit, c'est Maui, le demi-dieu doublé par Dwayne Johnson. Et cette chanson, en fait, là qu'on entend, a été reprise. Enfin, pas reprise, mais ils ont demandé au Hato, donc le quator portugais, de participer à la BO du film, pour la version portugaise du film, justement. Donc ça a été un honneur pour eux de participer là-dessus, et ça a super bien fonctionné. Et on passe maintenant au quatrième extrait de ce blind test.
Aladdin, ce rêve bleu, mais je l'ai pas en portugais le titre.
Ah, ils l'ont dit.
Azul.
Non, dommage. Ça n'a rien à voir avec un rêve bleu. C'est Un Monde Ideal. Voilà. Donc.
J'aurais pas trouvé.
C'est encore une chanson mythique. C'est sorti en 92, encore dans la même période du second âge d'or Disney. Donc inspiré du conte des 40 voleurs de Ali Baba. Qui a connu aussi une magnifique adaptation récemment avec Kev Adams. Je sais pas si vous l'avez vu.
Oui.
En tout cas, c'est.
Avec Kev Adams et Black M.
Celui-là, je l'ai vu par contre.
Voilà, bravo Tony.
C'est un moment ça, non?
Et en tout cas, on passe maintenant au prochain extrait de ce blind test. Pouco e devagar, ambos a tremer, quase sem saber, bela e monstro a amar.
Sempre foi. La Belle et la Bête, et donc en portugais, c'est Bela e Monstro a Amar. Elle a bien révisé, Julien, on dirait.
Très, très bien révisé.
Ouais. C'est la meilleure musique du film. Et La Belle et la Bête, c'est vraiment de mes préférés.
Écoute, ouais, bah, 91, du coup, juste avant Aladdin. Ils avaient déjà d'ailleurs tenté de l'animer auparavant, dans les années 30, sans succès.
Emma Watson.
Oui, récemment, en 2017, donc comme le précédent, ils ont suivi cette tendance de refaire des films bah, en version avec des acteurs.
Ils l'ont refait.
Et oui, mais en parlant de Royan, prochain extrait.
Oh, je trouve pas. Os teus problemas são para esquecer. Para sobreviver, tens que aprender. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Celui-là, on l'a tous, hein, je pense. Ouais, mais le titre change pas en portugais, alors.
Ça, c'est un avantage quand c'est des mots qu'on ne connaît pas.
Christelle, on te laisse.
Bah, Hakuna Matata.
Évidemment, Hakuna Matata dans L'Ouralion Rayon. Donc, un autre film de cette période, 94, celui-là, où on suit les aventures de Simba. Et ici, la chanson avec Pumba et Timon, qui sont quoi comme animaux? Blind Test dans Blind Test.
Pumba, Facochère, je sais pas.
Facochère, ouais, oui, c'est ça.
Facochère.
Oui, oui. Ah.
C'est un Et Timon?
Timon, j'ai. Timon, c'est un suricate, non?
Bravo.
Oh écoute.
Et c'est pas facile à trouver, bravo Aléa.
Merci.
Et on va finir là-dessus, on va écouter la petite sirène vers la fin.
On peut préciser que j'ai fait un sans faute.
Merci. Il faut le dire. Il
ça
faut
n'arrive
dire.
Pas toujours en vente, donc autant le préciser.
Ah là là là, et on va se quitter là-dessus, mais on écoutera pour finir la petite sirène.
Et oui, un grand classique. D'ailleurs, puisqu'on parle de films Disney, quel est votre préféré à vous,
Coco?
Voilà, ah. Coco, je le regarde tout le temps, je regarde en anglais d'ailleurs, je connais toutes les musiques par cœur. Voilà, c'est ton favori.
Moi,
et
je
toi,
dis...
Christelle ou Antonin?
Moi, c'est Réponse.
Voilà. C'est Réponse.
Ah. Voilà, j'ai beaucoup Réponse.
Coco, ouais, je pense que c'est peut-être mon préféré aussi. Il y a des liens avec Alma Viva pour le coup.
Ouais, ah, ouais. Oui, oui. C'est Alma, très beau aussi. Alma Viva, dont on parlera d'ailleurs dans l'interview aujourd'hui de Termstadt 2.1. Merci Antonin pour ces flashbacks. Et quitte à retourner en enfance, on se quitte avec la musique du film d'Ariel. Restez bien avec nous dans quelques instants, retour à la réalité.
Aqui é o teu lugar. O mundo dos humanos não é. A vida aqui no mar é muito melhor do que lá em cima. Querer o que não é nosso, não dá para ser feliz. Não queiras ir lá pra cima, vê bem sou eu quem o diz. Olha o mundo em teu redor, aqui no fundo do mar. Tanta coisa e tanta cor, mas que mais vais tu desejar? Aqui no mar, aqui no mar. É melhor cá, é pior lá, posso jurar. Pra além do mar a vida é má, escravatura é o que há. Nós flutuamos o tempo todo aqui no mar. No mar todos estão contentes, a nossa vida é brincar. Na terra é bem diferente, servimos só pra fritar. Às vezes no aquário não tem muito o que saber. Se sou bom pelo contrário,
é a mim que vai comer.
Oh não, aqui no mar, aqui no mar, não somos fritos nem nos cozinham em fricassé. Fazemos parte do seu rol, mandam-nos sempre o anzol. Eu bem vos digo, cá não há frio aqui no mar.
Aqui no mar,
aqui no mar,
aqui no mar.
Da boa vida nasce a batida, canto pra ti. Até a raia e o estujão virão tocar uma canção. Tudo a tocar, tudo a dançar aqui no mar. É flauta sem pauta, é carpa com arco, baixa compasso. Dão sons fatais, dão ais, os metais, a tuba derruba. E este é o Duque do Sol. A raia faz pois então percussão. A truta é biruta, mas canta rock. Mesmo o salmão vai na sua mão. E este aqui sufrou! Ha! As castanholas não são tão tolas aqui no mar.
e uma lesma traz outra lesma aqui no mar. O caracol não usa cascola e é que tem vivo aqui, é quem tem que confusão, mas que venação se aqui no mar.
Merci d'être avec nous et bienvenue à l'émission Terme Chat 2. Si vous venez de nous rejoindre, c'est le moment de l'échange de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de certaines traditions portugaises. Alors, Christelle Alves Meira est avec nous à côté. Alors, Christelle, dans ton film Alma Viva, qui est disponible dans les salles en France ce mercredi 12 avril, tu nous parles de pas mal de traditions, de rituels. Est-ce que c'est quelque chose qui a marqué ton enfance aussi ?
Ah oui, complètement, ça a marqué mon enfance et toute ma vie. Encore aujourd'hui, je trouve que les rituels et les traditions sont vraiment importants aussi pour se sentir en lien avec une communauté, des gens, sa propre famille, un pays, enfin, pour plein de raisons. Et c'est pas forcément lié aux croyances. Enfin, je parle du principe que même en France, dans des cultures plus laïques, il y a des rituels aussi, le rituel du passage au bac, enfin, ce genre de choses un peu plus basiques. Mais on a besoin de rituels et c'est vrai que dans mon film Alma Viva, il est question beaucoup de rituels, rituels de passage, des rituels dont ouais, on n'ose pas trop parler. Et à Trás-os-Montes, qui est donc la région où j'ai tourné le film, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a encore pas mal de traditions qui sont souvent liées aussi à l'imaginaire, en tout cas à la culture celtique, qui est assez présente dans cette région. Et donc il y a beaucoup le diable, le démon, et qui se retrouvent d'ailleurs dans les fêtes de carnaval. Et chez les Queretos, justement.
Exactement.
Voilà.
Os Queretos, dont j'allais vous en parler. Hein. Donc, Christelle, tu es originaire de Trás-os-Montes. Alors, comment parler de cette région sans parler d'Os Queretos ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Queretos, alors la tradition des Queretos, elle a des racines celtiques, hein, comme tu viens de le dire, Christelle, juste avant. Et le Queretos, c'est un personnage masqué qui est propre au carnaval et typique de Portugal. Alors, ça ressemble un peu à des épouvantails géants, si je peux décrire ça comme ça, Christelle.
Oui, ils font ça avec des vieilles couvertures qui découpent. Et donc, ça, c'est très coloré et c'est des couvertures qu'ils assemblent un peu en patchwork avec des choucalges, donc c'est des cloches autour de la taille. Et c'est que les garçons qui sortent.
Tout à fait.
Tu vas nous raconter pour faire peur aux filles et les frapper à l'époque carrément avec des vessies de porc. On frappait les filles, on courait derrière elles à travers les rues.
Justement, j'ai entendu pas mal de.
La bonne époque.
Ouais. Pas si sûr que ça. J'ai entendu pas mal justement d'origine par rapport à ça. Qu'est-ce que toi tu as entendu justement comme tu es originaire ?
En fait, c'est une façon d'expier les pulsions sexuelles. Mais c'est vraiment lié à ça. Mais en France, c'était pareil. C'est-à-dire que le carnaval, en fait, on se masque aussi pour. On a le droit de faire tout ce qu'on n'a pas le droit de faire normalement dans la société. Donc les règles sont abolies et tout est possible. Et donc les soirs de carnaval, souvent, ça part dans des choses secrètes.
Ce que j'avais vu, c'est que c'était justement mis en place pour faire peur aux jeunes filles. Oui. Pour qu'elles se cachent, pour qu'elles restent enfermées sur, sur elles-mêmes finalement. Donc voilà une tradition qui est quand même
mais
assez étrange.
C'était aussi lié au. Pardon, quand on plante les. La semence, je sais comment dire en français, lié.
Les semences.
Les semences, oui, parce que ça se passe, c'est le printemps qui va arriver, donc c'est une façon aussi de sortir, de conjurer tout le mal ou les mauvaises récoltes.
Oui, parce que souvent ils sont assimilés au diable.
Voilà.
Des diables humains.
Et on les brûle du coup.
Et on les brûle, exactement.
On brûle des grands épouvantails qui ont des formes de diables. Et c'est vraiment impressionnant à Podence, il faut aller voir les fêtes de carnaval, c'est magnifique. D'ailleurs, ils sont classés à l'UNESCO maintenant.
Exactement, ils sont partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité reconnu par l'UNESCO. Mais en tout cas, c'est une tradition à voir de ses propres yeux. Voilà. Parce que ça semble irréel hein, quand on en parle. Ouais.
Moi, je connaissais pas, et vu comment c'était écrit, ça m'a l'air irréel.
Moi, j'ai déjà vu des extraits sur YouTube, etc. Ça a l'air quand même vachement marrant.
D'ailleurs, voici une photo ici, on la partagera sur les réseaux sociaux.
Sur le livre Portuguese Develop 2021.
Exactement.
Si vous l'avez.
Voilà à quoi ça ressemble. C'est assez impressionnant. Et je vais rester dans la région de Trás-os-Montes. Alors, Christelle, tu le disais, on a pas mal de traditions dans cette région-là. Alors, je vais vous parler dos Politeiros de Miranda. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Toujours pas.
Toujours pas.
Du moins, pas le nom.
Alors c'est un groupe de danse déjà, originaire des terres de Miranda do Douro, et leur danse est surnommée par certains la danse des épées. Est-ce que ça te dit quelque chose, Christelle?
Oui, moi je les ai jamais vus en vrai, les pauliteros, mais ils ont des bâtons, deux bâtons dans les mains, et puis c'est une danse où ils frappent les bâtons, donc ça
tout
ressemble à des
fait.
Épées.
Alors c'est assez spécial.
Pauliteros de paus.
C'est assez spécial, ils dansent avec des armes et un bouclier, donc en bois, je vous rassure. Voilà. Et c'est une danse donc folklorique et qui met en scène un combat. C'est assez marrant, c'est une tradition, justement, qui est encore une fois originaire de tout le monde, c'est d'avoir de ses propres yeux. C'est une danse qui est dansée que par des hommes, voilà, un groupe de 8. Et en tout cas, voilà, si vous passez par cette région-là, n'hésitez pas à aller les voir. Alors on va faire une petite pause, je vais vous laisser écouter Mutad de Fernando Daniel et juste après je vais continuer à vous parler des traditions, j'en ai encore deux, notamment Uzeporving. Est-ce que vous connaissez Uzeporving? Alors
ah,
restez
oui,
bien
sûr.
Toujours pas, enfin là non, moi je connais pas non plus.
Alors restez bien avec nous pour découvrir cette tradition.
Hoje sonhei que tu estavas a beber café no lugar onde te vi pela primeira vez e agora já não.
Já não acordo a ouvir o som da tua voz, onde já vão as promessas de sermos avós. Deixa-me dizer o que fico por fazer. Faltou vontade, agora é tarde. O tempo não nos deu outra oportunidade. Falhamos os dois na verdade.
Faltou vontade, eu sei que é tarde.
Passei pelo mesmo café onde me davas a mão sem eu ter de pedir. E agora sou eu.
Já não acordo ao som da porta cada vez que sais. Já não importa qual de nós dois gosta mais. Será que sou eu?
Será que é?
L'échange de la semaine. Alors, je vous parlais de Uzeporving juste avant. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous savez qui est ce personnage? Je me tourne vers l'équipe.
Ouais, moi je connais, je crois qu'on en a parlé en cours d'histoire quand j'étais au lycée. Il me semble que ça arrivait à peu près en même temps que Oncle Sam aux États-Unis. et que si je me trompe pas, c'est arrivé du coup pendant la dictature, et c'était une façon de montrer le portugais lambda, quoi, en fait.
C'est ça. Alors... c'était pendant quand ils faisaient des illustrations pour promouvoir la famille idéale ou l'homme idéal portugais, c'était là-dedans.
Alors ça se rapproche des illustrations. Okay. Alors José Brumming, déjà, il est apparu en 1800.
Ah, donc c'est encore plus tôt.
75, dans le journal à l'Internet Magique. Donc voilà, ça remonte un petit peu. Tout d'abord, José Brumming, c'est un personnage caricatural. Il est très célèbre au Portugal. Vous avez déjà peut-être vu certaines de ses représentations. Ouais. Et José Brumming, c'est aussi une expression. Donc je vais commencer par vous l'expliquer. C'est une expression populaire, pardon, qui veut dire les gens simples, monsieur tout le monde. Tout simplement parce que Zé, c'est une façon populaire d'exprimer l'homme du peuple. C'est le diminutif de José.
Et c'est un des prénoms les plus communs, quoi. Et même aujourd'hui.
Voilà, exactement. Et puis ensuite, Povinho, povo, c'est le diminutif de peuple, qui signifie donc le petit peuple.
Oui, et si... Bah là, du coup, Tony est en train de regarder. Et
ah, il est en train de se renseigner.
Je voyais, j'avais exactement cette image dans ma tête. Donc Zé Povinho, il a un chapeau noir et il fait un bras d'honneur.
Et il fait un bras d'honneur, voilà, vous avez
la
photo.
Ah oui, c'est vrai, c'est celui-là.
Ça vous dit quelque chose?
Ouais, je me sens très bien.
Ça me dit absolument rien.
Non,
pourtant, je suis quasiment sûr qu'on en a une chez moi.
Tu retrouves dans des cafés, dans des restaurants au Portugal, Christelle, est-ce que ça dit peut-être quelque
chose?
Ouais,
peut-être sur des comptoirs de restaurants, ouais. Mais effectivement, je ne connaissais pas non plus.
Alors, ce personnage-là, il a été créé par Rafael Bordal Pinheiro. Il est apparu pour la première fois en 1875, hein, comme je vous disais juste avant. Et Zé Brumming, c'est un personnage satirique, donc de critique sociale, qui est perçu comme la personnification des Portugais. Et l'artiste en est servi pour critiquer donc, les problèmes économiques, politiques, et tous les problèmes qu'on retrouvait dans la société à cette époque-là. C'est un personnage qui n'est jamais content, toujours révolté face à l'attitude des hommes politiques, hein, qui ne font rien. Mais finalement, ce personnage-là, vous allez voir, vous pouvez voir sur les différents articles qu'il est toujours resté assez passif face aux différentes situations qu'on a pu retrouver à l'époque dans la société ou en politique. Alors Zé Povinho, c'est devenu au fil du temps un symbole du Portugal, vous l'avez reconnu en voyant sa photo, et c'est une figure donc incontournable du 19e siècle. Voilà pour la petite histoire de
Zé. Mais du coup, on avait tout faux sur la question de la dictature portugaise.
Non, mais ouais, du coup, n'empêche, avec Uncle Sam.
Peut-être qu'il a été réutilisé dans ce moment-là.
Après, il faudra vérifier.
C'est l'équivalent, quoi.
Ouais. Parce que, comme je vous disais, c'est un personnage qui a été utilisé pour justement manifester son mécontentement face à la politique. Ouais. Donc, il a pu être pris à cette époque-là les magazines, dans les articles. Pour justement.
Il faudra passer un petit coup de fil à Monsieur Pedrosa.
Tu le feras, tu nous tiendras au courant, Julie. Et pour la prochaine tradition, c'est la dernière que je vous présente, parce qu'il a fallu faire un choix, hein. On en a tellement au Portugal. Enfin pardon, l'avant-dernière, hein, plutôt. C'est Rinde de Bilouche. Est-ce que ça veut dire quelque chose?
Absolument pas.
Encore pas.
En français, on traduit ça par la dentelle au fuseau. Non, toujours pas.
Rien déjà. Ça me rappelle la Belle au bois dormant.
La dentelle au fuseau.
Oui,
non.
On va se piquer le doigt.
Alors, il faut savoir que c'est la principale manifestation artisanale qui a eu lieu dans le nord du Portugal, notamment à Vila do Conde. C'est un art ancien qui remonte au XVIIe siècle, et la dentelle, elle est travaillée par des fuseaux. Bilouche. En fait, c'est des petits bouts de bois, je pense que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Et c'est donc un art qui se crée à partir d'un bout de carton. Vous allez pouvoir vous voir quelques vidéos, etc. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'en me renseignant un petit peu plus, j'ai vu que cette tradition existait également en France, avec la même technique. La production et la création de la célèbre dentelle du puits en Velay. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose également, pour les lusophones qui nous écoutent, pour les Français ou autres. Vous avez sûrement déjà dû voir ces créations-là quelque part. On en a parlé récemment, c'est un... Nartigana qui fait la fierté de la région du Puy-en-Velay, mais également dans la région de Vila do Conde, au Portugal. Et puis, pour finir, Christelle, tu me parlais de de Viana do Castelo.
Oui, alors très modestement, parce que je sais même pas d'où vient cette tradition, mais c'est vrai que mon père est originaire de Viana do Castelo, et quand il y a les grandes fêtes d'Agouni, c'est les fêtes au mois d'août, c'est des merveilleuses, magnifiques fêtes très connues, je suis sûre que vous connaissez sans doute. Oui. Il y a des grandes processions, etc. Et dans ces processions, tu as des hommes et des femmes qui sont sur échasses avec des grandes têtes, c'est les capsoutes, je fais en papier mâché très coloré. avec des grandes boucles d'oreilles de Colessante Viane. C'est très beau à voir, mais je ne sais pas d'où vient cette tradition, donc je ne peux pas vous en dire plus.
Alors, c'est une tradition qui est reliée à l'Église, hein, notamment pour le pèlerinage de Signore de Guni, c'est la sainte qu'on célèbre chaque année à Viana do Castelo. Et comme le veut la tradition, et comme tu l'as dit, tous les 20, 21, 22 et 23 août, on les retrouve au pèlerinage de l'Agony, comme on le dit en français. Après, ça dépend des dates, hein, ça varie en fonction du calendrier et des fêtes de Viana. Mais en tout cas, à chaque fois que vous allez les voir, ils vont être accompagnés de groupes de bombes. C'est une tradition également. Il faut être bruyant, c'est la règle. La règle, c'est d'être bruyant dès qu'ils sont là. Et c'est une sorte d'hommage à la sainte, justement, de cette ville-là. Voilà pour ces traditions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont marqué? Je sais pas.
Il y a plein de traditions au Portugal.
On est obligé de faire une deuxième édition de cette rubrique.
Oui, voilà. Je pense que je referai une émission sur les traditions, comme on a pas mal de choses à se dire. On va se quitter avec Secret de Louane et on reviendra dans quelques instants. Para Ushka den Lujda Julie. Elle vous parlera du film Alma Viva, mais en portugais cette fois-ci.
Je suis pas prête à te voir grandir. J'ai peur de ce que tu vas devenir. Parce que je sais ce que c'est d'avoir mal. Et je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal. Tu sais, je veux que tu sois heureuse. Et je veux te voir tomber amoureuse. Et même si je vais te protéger, parfois je vais devoir te voir tomber. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi, tu feras pas la même erreur. Je sais que c'est pas simple de croiser les miroirs, que tu vas parfois pleurer dans le noir. Je l'ai vécu mille fois avant toi. C'est encore à l'intérieur de moi. Et si c'est dur de pas regarder les autres sans te sentir oublié, il faut que tu saches que je te comprends, que grandir parfois ça prend du temps. Et si les filles te semblent fragiles, sache que t'as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ce sera pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer, et j'apprends tous les jours à devenir douce. Je crois que j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Maintenant, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi tu feras pas la même erreur. Je vais te confier mon plus gros secret. J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer.
Termstadt 2.1 na Rádio Alfa. Hoje temos a sorte de ter a Cristel Aves Meira connosco em estúdio. Então nós nos queremos de Julie. Vamos aproveitar para falar-vos do seu filme que representa Portugal nos Oscars 2023.
Exatamente. E lembram-se dos estágios gerais da Lusociência que ocorreram no último fim de semana de janeiro, não é? Falei muito desse evento, já sei, mas se lembram bem, contei-vos que os participantes tiveram a sorte de ver, antes de todos, um filme Alma Viva, não é? Estavas lá, não é, Cristel?
A Jacqueline Corrado, que é a atriz que entra no filme, estava presente. Eu, por acaso, estava muito doente e não pude...
Oh, que pena.
Pronto, mas sei que a Jacqueline estava presente e falou bem sobre o filme.
estás aqui hoje e nós, a equipa da Tempestade 2.1, tivemos a sorte também de ver o filme antes da sua estreia oficial, que é no dia 12. Já voltamos a isto durante a entrevista, não é? Mas antes disto, deixa-me apresentar-lhes esta obra cinematográfica. Antes de mais, Lia, Toninho, Tonão, o que é que acharam do filme?
Quem quer começar? Um filme emocionante, onde reconheci muitas, várias tradições, muitas coisas que ouvimos às vezes, mas coisas que às vezes não queremos muito falar, ou estamos a esconder, ou tradições que são da nossa terra e que fiquem lá bem escondidas. E neste filme, a Cristel fala-nos destes rituais, que às vezes estão muito escondidos, não é? Dentro das nossas terras.
Não queres dar a palavra, estás com medo. Quais são estes rituais?
Eu também gostei.
Bruxaria.
Bruxaria, isso mesmo.
E descobri tradições que não conhecia.
Pois, porque...
Eu não sou do Norte e há algumas coisas que eu não conhecia.
Ah, pois. Descobriste, então?
Pois.
Eu também acho que é alguma coisa que... É um filme que nos fala de nós próprios, porque fala também da imigração, porque a Salomé nasceu em França, não é? Fala francês e fala português, é como nós, afinal, não é? Mas pronto, vamos fazer um resumo rápido. Diz-me se me engano, está bem, Cristel?
Ok.
Como todos os verões, a Salomé vai passar as férias na aldeia familiar, na região de Trás dos Montes, com a sua avó. No entanto, tudo muda quando esta morre de maneira súbita. Enquanto os adultos discutem sobre o funeral, Salomé vive a sua tristeza sozinha e descobre o mundo da bruxaria. Lá está. Pois a sua avó era considerada a bruxa da aldeia e ajudava muitas famílias durante os falecimentos. A jovem rapariga acaba por viver uns momentos com o espírito da avó, que ainda quer ter a mão sobre alguns assuntos que não teve tempo de acabar na sua vida. É isso, não é?
Está bem resumido.
E quem pode ver e gostar do filme? Toda a gente. Acho que toda a gente pode gostar. Os jovens, os mais idosos, os não lusodescendentes, os lusófonos, os portugueses, os franceses, toda a gente. Primeiro, é um filme curto. Acho que é uma coisa que pode ajudar as pessoas a ir ver o filme. É 1h28, precisamente. As personagens falam de maneira geral em português, mesmo se, como disse a Salomé, como nós, é bilíngua e fala também em francês. De qualquer maneira, o português é acompanhado por subtítulos aqui em francês e acho que nas outras línguas, nas línguas respectivas. Igualmente, é um filme universal, pode falar a todos, sejam lusófonos, se não sejam não lusófonos, trata de um assunto que pode comover toda a gente. Não sei para vocês, mas acho que leva toda a gente a lembranças da sua infância ou da sua vida familiar. E, pessoalmente, vou ser sincera, Tony, sabes o que vou dizer? Chorei quase. Chorei quase.
Espero que também riste um bocadinho.
Ri também um bocadito. Mas eu sou alguém que choro muito quando fico com emoção. O cinema é mais complicado, mas, por exemplo, livros, falamos aqui muito de livros e eu choro quase sempre. E o Tony está sempre a pedir se eu chorei, se não. Mas pronto, o que é importante destacar neste filme? Primeiro, é uma história familiar. Não só fala da temática da família, mas também, se não me engano, é a tua filha que está no papel de Salomé, que é a personagem principal.
Isso mesmo, verdade.
Um papel muito bem jogado, ainda por cima. Não sei como é que ela fez, com 9 anos, é?
Sim, quando ela filmou tinha 9 anos. É incrível, ela é mesmo uma atriz profissional, como se fosse uma mulher.
Pois, eu não sabia. É um filme comovente também, como disse, chorei quase, e que nos toca a todos e nos obriga a tratar das nossas lembranças. Acho incrível a capacidade do cinema a falar-nos de nós, mostrando-nos uma história singular da nossa. E acho que conseguiste muito bem este desafio com a alma viva. Parabéns.
Obrigada.
É um filme com muito realismo também, mas que mistura realidade e ficção. Aliás, uma cena é inspirada na tua própria vida, Cristel, mas o tema da bruxaria, muito importante na obra, é inspirado na realidade, misturado com um pouco de ficção. E outros temas a destacar em Alma Viva, além da família da bruxaria, são as tradições, como a Lia já nos mostrou um bocadito, a morte e um bocadito os ensinos também, que é uma realidade que vivemos todos no verão em Portugal. E a morte é presente em muitos dos teus filmes, não é, Cristeira? É um tema muito importante, é um tema que nos toca a todos. E além disso, e acho que é um dos pontos mais importantes, nomeadamente para nós, Portugal transmontano é muito bem representado neste filme. Somos testemunhas de todas as tradições que conhecemos, ou não, por alguns, mas que os não lusófonos podem descobrir. E de maneira mais triste, a realidade dos ensinos é também presente e representada na obra. Como sempre, resumimos. Nos cadernos da Julie, é sempre melhor no final. Alma Viva, de Cristel Alsmeira, filme de uma hora e meia, mais ou menos, sobre a história da jovem Salomé em Trás-os-Montes, disponível em todas as salas francesas desde esta quarta-feira, dia 12 de abril.
Obrigada, Julie. E então, indo ver o filme de Cristel Alsmeira, que está agora connosco na Tempestade 2.1. São quase 15 horas. Fiquem bem na Tempestade 2.1. Daqui a pouco o Tony vai nos apresentar um artista musical como cada semana. E depois vamos à entrevista com a Cristel Alsmeira. Até já!
Tenho frio, só penso em ti. Espero uma resposta, não posso ficar assim. E os nossos sonhos esperam por nós. Diz-me se os vamos cumprir. Passo noites em branco, lembrando os momentos. Sinto-me tão preso, e agora? O que tu queres de mim? Na minha cama me disseste que sim. Dizes que me amas, mas foges daqui. O que tu queres de mim? E agora? O que tu queres de mim? Esta noite na minha cama me disseste que sim. Dizes que me amas, mas foges daqui. O que tu queres de mim? E agora? Acabou para ti e para mim. Já nem quero essa resposta. Não há futuro para nós. Estou cansado de desculpas. Fazem parte do passado. E lembro que ai, faço noites em branco, lembrando os momentos. Sinto-me tão preso. E agora? Queres de mim? Esta noite na minha cama disseste que sim. Dizes que me amas, mas foges daqui. O que tu queres de mim agora?
15 heures passées, merci d'être avec nous sur Radio Alpha et bon samedi à tous. Alors ce samedi, c'est Cristel Alsmeira qui est avec nous en studio, notamment pour parler de son dernier long métrage intitulé Alma Viva, qui sort en salle en France ce mercredi 12 avril 2023, mais pas seulement.
Oui, le 20 avril, il sortira aussi aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique, le 2 mai en Suisse et le 5 mai en Espagne. Voilà, pour les auditeurs qui ont de la famille sur ces territoires, n'hésitez pas à leur faire savoir.
un film que je vous recommande
on vous recommande
en tout
tous,
cas.
D'ailleurs.
Et oui.
On l'a tous vu ici.
On en a parlé d'ailleurs avec Julie. Si vous comprenez le portugais.
Et c'est pas fini.
Vous avez écouté le résumé. Et on va reparler au moment de l'interview. Mais avant, c'est Tony qui nous présente chaque samedi un artiste. On en apprend un peu plus sur son parcours et ses nouveaux projets. Aujourd'hui, je t'avoue que c'est une vraie découverte.
Mais ouais, bah, un peu pour moi aussi. Mais Julie, je t'ai trouvé l'origine de Karine Wadjouan.
Moi, j'aime bien quand les rubriques elles commencent comme ça.
Ok, bah, c'est sa version junior. Et je vais vous parler de Rita Roche, qui est une très jeune chanteuse portugaise de tout juste 16 ans. Elle s'est révélée au public portugais dans l'émission The Voice Kids, où elle a été jusqu'en finale dans l'équipe justement de Karine Wadjouan. Le concours s'est déroulé de janvier à avril 2021. Elle a sorti son tout premier single, Mais ou menos isto, en décembre de cette même année. On l'écoute.
Não sei como é que isto aconteceu, nem sou boa de explicar. Ela devia ser eu, tu pareces nem notar. Saio sempre que ela chega, mudo sempre de conversa. Não sou de falar, sou de esconder. Pode ser que um dia assuma que prefiro ter-te assim do que de maneira nenhuma. Prefiro ficar calada, ver-te andar de mão dada. Isto que a minha mãe falava, mais ou menos isto, que é estar apaixonada. Afinal, não sei se gosto, se é para mim. Então era disto que toda a gente falava, mais ou menos isto, dói mais do que esperava. Afinal, eu só não quero é gostar. Fico a fazer filmes na cabeça. Imagino que me ligas, que me encontras na festa. Faço planos, faço figas e dás-me um beijo na testa. Dizes que sou tua amiga. Escondo-me para não me ver chorar. Tu não ias entender. Acabo a ver-te chegar sempre com outra qualquer. E para ser muito sincera, eu nunca vou gostar dela. Isto que a minha mãe falava, mais ou menos isto, que é estar apaixonada. Afinal, não sei se gosto, se é para mim.
Tu sais que cette musique, je la kiffe depuis un moment, mais je pensais que c'était Karine Wadjouan.
Et bah tu vois, et bah un peu plus d'un an après la sortie de Mais ou menos isto, les chiffres sont complètement fous. C'est 2,5 millions de vues sur YouTube, 2,7 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Tout cumulé, on dépasse les 5 millions d'écoutes et pour un pays qui compte 11 millions d'habitants, réussir à en toucher 5 pour un premier single à 16 ans, c'est du jamais vu. Elle a été récompensée il y a tout juste 3 semaines en étant certifiée disque de platine, le jour de la sortie, comme un symbole de son premier EP, Miúda do 319. Et pour revenir encore quelques instants sur ce succès national, c'est un succès qu'elle partage avec Karine Wadjouan, sa coach dans l'émission devenue amie, avec qui elle a travaillé sur ce morceau. Les paroles ont été écrites à 4 mains par Karine Wadjouan donc et Bárbara Tinoco, qui ont été accompagnées par Egir et Féodor Bivol à la composition.
Quelle équipe de fous.
Pour un premier single à 16 ans, tu avec elle entourée.
Je rêve d'être elle en fait. Tous les gens qu'elle rencontre, c'est les gens que j'admire quoi.
Bah commence à chanter. ça peut aider.
Je pense que t'as pas envie.
Non, ni moi ni les auditeurs. Après l'émission, Rita Roche a été invitée par Karine Wadjouan à passer une semaine chez elle, à Lisbonne, pour travailler sur l'après de l'aventure. Et quand on voit le succès qu'elle connaît aujourd'hui, on s'imagine qu'elles n'ont pas chômé. Aujourd'hui, la jeune portugaise assure la promotion de son mini-album avec certaines de ses propres chansons. L'une d'elles, c'est Decided.
Il olha para ela e sorri para outra ali. Quem me dera que olhasse para mim assim. Para que é que eu sofro tanto? Tento de tudo, choro ou danço, decide. Só elas e o que é feito de mim.
pensando melhor, não é tão interessante assim. Mas ele não me vê, e eu aqui que não entendo. Que posso fazer? Largar ou prender? Sonhar ou viver? Para mim.
Maintenant qu'elle est là où elle est, Rita Roche, qui est née en périphérie de Porto, ne doit pas regretter d'avoir harcelé ses parents à l'âge de 6 ans pour intégrer la chorale Pequeno Cantores de Maia, et plus tard à 10 ans d'être entrée dans une école de musique où elle a appris à jouer de différents instruments, dont la harpe. À 16 ans maintenant, Rita Roche est finaliste de The Voice Kids, elle est disque de platine, elle écrit et elle compose déjà ses propres chansons, alors qu'est-ce que ce sera quand elle en aura 30?
En tout cas, ça promet, Tony, merci pour cette nouvelle découverte, et dans un instant, l'interview avec toi, Christelle, on parlera de ton parcours, mais surtout de Alma Viva. En attendant, on écoute Un Meu Lugar de Rita Roche en duo avec sa mentor, Caroline Osmange. A tout de suite.
Consegues dormir e as piadas não te fazem rir quando o mundo te pousa nas costas e à tua volta não vês ninguém quando o tempo passa devagar leva-te o chão. Leva-te o ar no meu coração. Tens sempre lugar. Eu vou-te lembrar que és alguém. Podes ligar se o mundo cair e procurar abrigo. Sala, eu durmo em ti, num fazer das malas, passo a passo, nas pedras do chão, eu posso ser caminho também, vou existir no papel que vou, serei para que não te doa. Vê-me em cada nuvem que passa, só para te dizer, está tudo bem. Podes ligar se o mundo cair e procurar abrigo.
Perto de ti. Aujourd'hui, Termstadt 2.1 est avec Christelle Alves-Mera, actrice, scénariste, metteuse en scène et réalisatrice franco-portugaise. Le 7e art, c'est comme une passion pour toi, non Christelle ?
Oui, c'est obligé, ça doit être une passion, c'est tellement dur de faire un film, c'est tellement de prises de risques, d'épreuves, de difficultés qu'il faut surmonter, donc si c'est pas une passion, une obsession, ça sert à rien.
Puis tu connais aussi bien le théâtre que le cinéma, comment tu fais pour passer justement d'un univers à l'autre ? Est-ce qu'il y a pas mal de similitudes ?
Alors j'ai commencé au théâtre et puis je suis passée au cinéma, donc je ne fais plus de théâtre pour le moment. C'est assez différent, oui, c'est pas les mêmes réseaux et puis c'est pas la même façon de travailler. Pour faire court, en gros, le théâtre c'était des aventures entre mes 20 et mes 30 ans. On était une petite dizaine d'acteurs et on donnait tout pour des spectacles qui n'étaient pas beaucoup vus ou un peu reconnus, mais bon, c'est assez précaire, on va dire, donc il faut avoir beaucoup d'énergie et c'était formidable, mais ça m'a aussi un peu fatiguée. Et le cinéma, la différence c'est qu'il y a un rayonnement mondial, en fait, c'est incroyable. Et puis il y a une pérennité de l'œuvre, c'est-à-dire l'œuvre elle reste, le film reste pour toujours. Une pièce de théâtre, c'est éphémère.
C'est sur le moment.
Sur le moment. Et puis on peut pas. On a beau le filmer le théâtre, ça reste pas. Là, les films, ce qui est merveilleux, c'est que ça arrête le temps. Et pour toujours, ces images resteront, même post-mortem, quoi. Mes films continueront à circuler, j'espère, sur les générations futures. Et donc, c'est vraiment une façon de capter un moment précis du monde et de l'humanité.
Capter un moment, mais aussi mettre en avant la scène lusophone, j'ai l'impression. C'est quelque chose que tu aimes faire, que tu aimes représenter dans tes films ou dans tes documentaires. Par exemple, ton premier documentaire, il a été fait au Cap-Vert. Encore une fois, on reste dans la lusophonie. Pourquoi le Cap-Vert et quelle est ta volonté aussi de mettre sur le devant de la scène la culture lusophone ?
Ça s'est fait de façon naturelle. Je suis donc née en France de parents portugais, donc j'ai la double identité. Et c'est vrai que je commençais par une obsession un peu de questionnement identitaire, de me dire « Ok, je suis française, mais je suis aussi portugaise. Mais alors, qu'est-ce que c'est cette portugalité ou cette culture-là » et donc, j'ai commencé dans les lusophonies africaines, donc au Cap-Vert, en Angola, parce que aussi je voulais mêler le cinéma à des voyages. J'avais 25 ans et j'avais envie de voyager aussi, donc j'ai voulu aller en Afrique parce que aussi j'ai grandi en banlieue parisienne à Montreuil et il y a toujours eu des foyers maliens près de chez moi. J'ai toujours eu des amis africains, donc c'est une culture aussi qui m'intriguait. Et puis ensuite, il y a à peu près 8 ans, mon premier court-métrage dans la région de Trás-os-Montes, dans le village de ma mère, qui commence à marquer en fait mes premiers pas vers le long-métrage Alma Viva, dont on parle aujourd'hui, qui va sortir donc dans quelques jours en salle en France. Ça fait presque depuis 2014 que je travaille sur ce film, donc presque 10 ans. Avec c'était pour mes courts-métrages où je filmais déjà des gens de mon village, mes petites cousines, les vacances d'été, ces ambiances en fait que tout Portugais de France connaît. Que j'ai connu dans mon enfance, que je continue à transmettre aussi à mes enfants. Aujourd'hui, je suis maman et on continue d'aller au Portugal chaque année, plusieurs fois par an. Donc c'est très beau d'avoir comme ça une relation de retour dans un pays. On le vit à distance et puis on revient. Donc les films questionnent ça, cette identité-là aussi, du point de vue de celle qui est née en France.
D'ailleurs, tu as réalisé deux courts-métrages, hein, si je ne me trompe pas, de fiction, avant ce long-métrage qui est Alma Viva. Et toujours dans le village de ta maman au Portugal. Alors, est-ce que ce mélange entre la réalité et la fiction que tu utilises, ça ne rajoute pas un côté fascinant aussi à cette terre, à ces cultures, à ces rituels-là qu'on peut retrouver dans ton film Alma Viva, dont on va parler dans quelques temps?
En fait, c'est vraiment des fictions, mais on a une impression, c'est parce que j'ai une obsession pour que tout paraisse très réel. Je veux qu'on croie aux histoires que je raconte, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça paraît très réel comme un documentaire, et pourtant c'est de la fiction. Il y a des scénarios écrits. Chaque personne qui rentre dans le film sait ce qu'il doit jouer. Il y a rien de volé ou il y a rien d'imprévu comme dans un documentaire. Mais ce qui donne cette sensation dans Alma Viva, les spectateurs qui m'écoutent, les auditeurs qui iront voir, c'est ça paraît vraiment nous raconter de l'intérieur, ça paraît très vrai, parce que aussi je vais tourner avec des gens qui viennent vraiment de la région, donc des acteurs non professionnels. donc qui parlent le dialecte, qui ont des visages très comment dire authentiques de du village, et ça change tout, parce que si j'avais tourné avec des acteurs de Lisbonne par exemple, je les ai vus en casting, les acteurs de Lisbonne, mais qui cherchaient à faire des tramontanes ou l'accent, mm-hmm. Tout de suite on était dans la caricature ou dans le stéréotype,
tu voulais fuir justement cet aspect là
voilà, c'était très important pour pas me moquer et pour être au plus proche d'une sincérité de ce que je voulais raconter. Ceux qui jouent les immigrants, c'est-à-dire dans Alma Viva, il est question d'une famille. Il y a la grand-mère qui meurt, donc comme dans beaucoup de familles, ceux qui sont restés en France reviennent pour l'enterrement de leur mère. Et donc il y a ce mélange entre ceux qui sont restés au Portugal, ceux qui sont en France mais qui reviennent donc pour l'enterrement. Et donc pareil, les acteurs qui jouent les franco-portugais, donc c'est Jacqueline Corrado que vous avez vu dans La Cage Dorée, donc qui elle est une actrice professionnelle mais qui a cette double identité, donc c'était tout à
donc
fait
elle
inné pour elle,
davantage à son personnage,
c'était
aussi
hyper naturel de le jouer. On a une actrice qui s'appelle Ana Padrão, qui est une actrice très connue au Portugal, c'est un peu notre Carole Bouquet française, tu vois, qui d'habitude joue, elle est magnifique, c'est vraiment une très très belle actrice, si vous la connaissez pas, allez regarder sur internet Ana Padrão. Et en fait, normalement, elle joue toujours des femmes un peu bourgeoises dans les télénovelages, dans les films. Et là, c'est la première fois qu'elle revient à la ruralité. Et en fait, elle est originaire de Saint-Oulian, qui est le village juste à côté du mien. Et pour elle, c'était un retour aussi à sa culture plus rurale. Et elle a accepté de faire ce rôle. Il faut aller la voir. Elle est aussi vraiment incroyable. Donc, les deux actrices professionnelles, c'est Jacqueline Corrado et Ana Padrão. Le reste, c'est des gens que j'ai trouvés en casting sauvage. C'est-à-dire, j'avais fait un grand appel. Ah, oui. J'étais venue d'ailleurs à Radio Alpha.
À Radio Alpha,
voilà.
Ça t'a pris combien de temps au final, justement ? Parce que je vois que t'as été très méticuleux sur le choix des personnages, des acteurs.
Ah oui, ça met du temps. Bah, d'abord, il y a toute l'écriture, c'est au moins 3-4 ans. Et puis après, il y a le casting qui a duré bien 2 ans, où j'ai fait le tour des bals portugais l'été. J'ai été dans les restaurants, dans les églises en région parisienne pour justement aller chercher des franco-portugais. Et donc, il y a un des oncles, c'est Arthur Bregas, qui lui, dans la vie, est agent immobilier. Et qui est donc franco-portugais, et quand vous allez le voir dans le film, il a vraiment le talent d'un acteur. C'est vraiment assez magique quand on fait des découvertes comme ça. Le cinéma a cette capacité de révéler des gens.
C'est les surprises du métier.
C'est des révélations. On pose une caméra sur quelqu'un et d'un coup il y a un miracle. Il devient beau, tout comme ces vieilles dames. Il y a des personnages de femmes un peu âgées. C'est des dames qui m'ont vu naître, qui sont de mon village. Elles
c'est
ont
pas
passé
leur métier.
Le casting.
Elles sont pas actrices.
Non, pas du tout. Et elles ont eu 20 jours de tournage. Elles jouent des scènes difficiles. Il y en a une qui doit tomber d'un escalier. Bien sûr, il y avait une cascade derrière, mais il fallait répéter les scènes. Et c'était très beau de voir ces femmes se révéler un talent alors qu'elles ont déjà entre 75 et 80 ans.
Elles en pensaient quoi, justement, quand tu leur as dit vous allez jouer pour Alma Viva? C'était quoi leur première réaction? Est-ce que direct elles ont accepté ou elles étaient un peu réticentes, justement?
En fait, je suis arrivée au village et j'ai dit on va faire un casting, qui veut participer? J'ai besoin de d'enfants, d'adolescents, de femmes. Enfin, j'ai vraiment ouvert un casting à tout le monde, et puis les volontaires sont arrivés, ils s'étaient fait tout beau et tout.
C'était bien.
Et du coup, ils ont joué le jeu, on les prenait en photo avec. Et puis je les ai mis en fait en impro. On a fait des jeux. C'était en fait comme des grands enfants. On s'est amusé beaucoup. Et après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes. Donc c'est le talent qui ne s'explique pas. Certains avaient un naturel tout de suite et ils avaient une force de proposition de jeu. D'autres étaient plus timides. Donc voilà. Après, il y a dû avoir une sélection, mais ça fait partie du métier.
Bien
donc
sûr.
Ceux qui étaient plus timides, je les ai gardés en figurant. Et puis ceux qui avaient des talents, ils ont eu des rôles. Mais il y avait des petites histoires au village entre les dames qui disaient ah mais elle a plus de jours de tournage, elle jouait déjà un petit peu
la petite concurrence déjà
la concurrence d'actrice, elles avaient déjà pris le pli, mais elles ont adoré se faire chouchouter parce que un tournage c'est extraordinaire, il y a des maquilleuses, il y a les coiffeuses, il y a les costumières, il y a le catering, on boit son petit café, enfin tout le village était devenu un décor de cinéma. C'était juste après le Covid, on a tourné donc en 2021, et en fait tout le monde avait besoin de cette union, quoi. Voilà, c'était donc très un travail de groupe et très beau, très solidaire.
D'ailleurs, si vous voulez donc voir tous ces acteurs, rendez-vous ce mercredi dans toutes les salles françaises pour justement voir Alma Viva. Alors, on va en parler sans trop en dire. Est-ce que tu peux nous résumer, cette fois-ci en français, Alma Viva en quelques lignes, justement?
Bah, c'est l'histoire de Salomé, qui est une petite fille de 9 ans, qui revient l'été donc dans son village au Portugal auprès de sa grand-mère adorée. Elles ont une relation très fusionnelle. Et cette grand-mère, elle a un don particulier. Elle sait parler avec les morts. Et donc Salomé est très fascinée par les pouvoirs de sa grand-mère. Mais au cours de cet été, malheureusement, cette grand-mère va mourir dans des circonstances tout à fait étranges et mystérieuses. Et donc cette petite fille va devoir... elle va avoir une mission, en tout cas, de rendre hommage à cette défunte. C'est vraiment un film qui raconte le lien qu'on a entre les vivants et les morts. Les morts font partie des vivants, ils possèdent les vivants, en tout cas. Mmh. C'est une question d'héritage, de famille. Mais tout ça, même s'il y a cette dimension un peu fantastique, magique, ésotérique, le film est aussi très drôle. En tout cas, on a essayé de garder toujours beaucoup d'humour parce que je crois vachement que dans les circonstances un peu dramatiques de nos vies, quand on a ces moments d'émotion très forts, bah, on peut vraiment être justement pris dans des sentiments contradictoires où on peut passer du rire aux larmes. Et c'était le défi qu'on s'est donné avec les acteurs, voilà, sur des scènes où on ne s'attend pas à rire, mais on va rire.
Mais on va rire quand
même. Et en même temps, on rit et quelques secondes après, on a déjà une larme. Enfin, voilà,
c'est les surprises du film aussi, comme je disais juste avant, beaucoup d'émotions.
Oui, beaucoup d'émotions.
Dans ce film-là, donc on est assez surpris quand on le regarde. Et donc, le personnage principal, c'est Salomé. Salomé qui, d'ailleurs, dans la vraie vie, est ta fille. Pourquoi avoir fait ce choix, justement? Et est-ce que à travers son rôle, c'est une façon aussi pour toi de retracer un peu ton enfance, tout ce que tu as vu quand tu étais plus petite?
Oui, alors au départ, ça devait pas être ma fille. J'ai écrit ce film, ma fille était en bébé, donc c'était pas du tout au programme. Et j'ai passé plusieurs années donc à faire des castings pour cette petite fille. Et ma propre fille, en fait, m'aidait dans les castings à donner la réplique. Et puis en fait, on a découvert qu'elle avait des talents incroyables. Et donc c'est devenu une évidence. Et puis c'était beaucoup plus simple que ce soit ma propre fille. D'abord, elle avait envie de jouer, donc c'était lui faire un beau cadeau que de lui offrir ce rôle. Et en plus, on était en confiance. Elle connaît le village, elle parle bien le portugais, elle connaît les gens qui rentraient dans le film. Enfin voilà, tout était facilité et elle est vraiment incroyable. Elle porte le film du début à la fin. Elle nous embarque avec... elle a une grande profondeur.
Elle a eu des cours avant, elle s'est entraînée.
Non,
parce
pas
que là, il y a
tout.
Une carrière d'actrice qui se dessine.
Oui, il y a une
même.
Carrière d'actrice, ça c'est vrai que vraiment tout le monde le dit et c'est vrai. Après, bon, on pense pas à la carrière. Hein. L'idée, c'est pas d'en faire une petite star. Elle vit comme les autres enfants de son âge. On verra pour plus tard. Il y a déjà eu d'autres propositions. On la verra à l'affiche d'une comédie d'ailleurs là au mois de juin aussi. Une comédie dans laquelle, qui s'appelle Le Processus de Paix avec Camille Chamou et Damien Bonnard, où elle joue la fille. Donc, on bien sûr, je pense qu'il y aura des propositions, mais on va faire quand même attention de veiller à, voilà, à en faire. Voilà, tout à fait. Et oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à travers cette petite fille, j'essaie de revenir sur des souvenirs, des sensations, des sentiments que nous laissent ces villages l'été, qu'on a tous connus et qu'on connaît encore. Voilà, ce rapport avec sa grand-mère, les petits rituels qui accompagnent les prières, les repas en famille, les bals au village, les après-midi à la rivière. Parce que personnellement, enfin, les souvenirs que j'ai de mes vacances au Portugal, ils sont à la fois lumineux, très chaleureux, ces escapades en moto, ces après-midi à la rivière, etc. Et en même
temps, l'eau gelée aussi, tu dis.
L'eau gelée, ouais, c'est vrai, mais comme il fait tellement chaud, ça va. Et en même temps, il y a aussi toute cette dimension un peu plus, plus mystérieuse, des histoires étranges qu'on racontait, que j'entendais dans ma famille, autour donc de la sorcellerie, qui est aussi un des thèmes. Voilà, du film, un sujet qui est pas facile à aborder parce que souvent tabou, secret, c'est souvent des histoires qu'on n'ose pas raconter. Et donc là, le film, il rentre dans un endroit très intime aussi de ses croyances. Et
tu parles de quelque chose dont on n'ose pas parler forcément, ou on n'entend pas trop parler, mis à part dans nos villages. Comment t'as réussi à franchir ce cap-là, justement, dépasser la frontière?
Oui, la frontière, c'est s'autoriser à faire les choses, en fait. Mais c'est vrai que ça m'a pris quelques années. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai aussi mis du temps à l'écrire. Parce que forcément, quand on parle de sorcellerie, ça nous fascine. Et en même temps, ça nous fait peur parce qu'on a peur d'être pris dedans. Tout comme Salomé, d'ailleurs, dans le film. À un moment donné, elle est prise dans l'engrenage des mauvais sorts. Et elle dit, sans spoiler, mais elle dit qu'elle ne veut plus être sorcière. Quoi. Et elle renonce. Mais pourtant, ça la rattrape parce que, en fait, ce que raconte le film aussi, c'est qu'on ne peut pas échapper à l'héritage, à notre héritage. Et finalement, c'est très lumineux. Elle garde un lien avec les invisibles et c'est un don. Mais c'est vrai qu'il a fallu un temps pour accepter de me dire je vais m'autoriser à parler de ça et au contraire on va un peu lever le tabou. Ces croyances, elles sont pas honteuses. Elles racontent aussi une façon de se comporter dans des petites communautés. Et surtout, elles ne sont pas que portugaises. Je me suis beaucoup inspirée aussi de la sorcellerie en France. Et le film fait le tour du monde là depuis un an. On a commencé au Festival de Cannes. Depuis, il est sélectionné dans de nombreux festivals à travers le monde. Et je m'aperçois que cette histoire, qui est vraiment dans un contexte très portugais, avec des rituels portugais. Ça parle à tout le monde parce que les histoires de malédiction, de mauvais œil, de guerre de voisinage, elles existent partout. Les histoires de mort, de grand-mère, de petite fille qui s'aime, ça existe partout. Et donc voilà, il y a quelque chose d'extrêmement universel.
Et tu viens de le dire justement, tu as parlé de la mort. C'est un thème qui est omniprésent quasiment dans tout le film. Pourquoi avoir fait ce choix de la mort omniprésente ? Comment ça s'est passé justement ? Parce que ça va pas être facile. La mort, c'est un thème difficile à évoquer, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans le cinéma. Comment ça s'est passé pour toi ?
En fait, je pense que c'est le plus grand... Enfin, c'est pas je pense, c'est une vérité. La mort, c'est le plus grand mystère de la vie. Et donc, le cinéma est aussi là pour questionner la place de l'homme dans le monde. Et donc, le sens, donner un sens à nos existences. Donc, le mystère de la vie et la mort, c'est l'un des plus... c'est l'une des plus grandes questions. Et donc, tout le film tourne autour de cette question que pose Salomé à sa mère. Où est-ce qu'on va quand on est mort ? Elle s'interroge sur l'après. Et en fait, dans cette petite famille dans Alma Viva, on croit aux esprits, on croit que les morts ne sont pas des absents mais des invisibles. Et du coup, le film propose aussi de ramener les morts dans nos vies parce qu'on peut pas occulter. On est tous voués à mourir. Et c'est vrai que plus on avance dans nos sociétés occidentales, plus on essaie d'écarter le drame, la mort, le tragique, parce que comme si on voulait pas voir notre vulnérabilité. Et donc revenir à ces traditions et à la mort, la voir, l'affronter comme on le faisait avant à l'époque. Moi encore petite, j'ai veillé mes grands-parents. Je pense que sans doute pas vous êtes d'une autre génération, mais veiller les morts, c'est un rituel fondamental en fait dans l'humanité. On peut pas tourner le dos à nos morts, voilà. Et le film se propose aussi de rendre la mort très belle, parce que cette grand-mère, pour nos auditeurs, n'ayez pas peur. Enfin, le film, c'est vrai que la mort est là, mais on en rit. On en pleure aussi, c'est vrai, mais on aime bien pleurer au cinéma quand même. Oui. Et puis, elle est très belle, c'est très beau de voir cette petite fille proche de cette grand-mère.
Et puis, je trouve que pas mal de Portugais vont pouvoir se reconnaître dans toutes ces traditions, dans ces rituels-là. Mais aussi, comme tu le disais juste avant, Christelle, d'autres cultures aussi vont pouvoir s'y reconnaître, puisque la mort, ça touche tout le monde. Des traditions, on en a aussi un peu partout. Et aussi, ce qui est intéressant dans ton film, c'est qu'il est en portugais. Et en français, on a ce mélange des deux langues. C'est représentatif aussi de ta double culture, d'avoir fait ce choix.
Oui, mais c'est ce choix, il est aussi très intuitif et naturel, parce que Salomé, elle est née en France, donc forcément, elle parle français avec sa mère, Jacqueline Corrado, donc, qui joue le rôle de la maman de Salomé. Donc, elle parle français avec sa mère, tout comme dans le village, les jeunes parlent français. Et donc le portugais, c'est plutôt la langue de ceux qui ne sont pas partis, donc les tantes qui sont restées, la grand-mère. Le film parle aussi beaucoup des Portugais, de l'immigration, de la culture de l'immigration. J'aime bien mettre ce terme-là parce que je ne sais plus qui, un député portugais que je nommerai pas, m'avait dit il faut arrêter de parler des immigrés, comme si c'était un mot négatif. Mais pourquoi ? On m'a toujours dit que j'étais une enfant d'immigrés. Alors oui, on peut inventer d'autres mots peut-être qui paraissent... moins chargé, mais c'est aussi ne pas reconnaître l'histoire. Si mes parents ont émigré, en tout cas dans la génération de mes parents dans les années 60-70, c'est aussi pour fuir une certaine précarité et des problèmes politiques et sociaux que le Portugal connaissait. Et encore aujourd'hui, les Portugais continuent à émigrer pour des problèmes économiques. Donc vouloir chasser ce mot, c'est aussi d'une certaine façon.
On peut pas. Oui.
Non. Voilà. Voilà, c'est ce film aussi raconte l'histoire de ces familles. C'est pour ça que beaucoup d'auditeurs en allant le voir vont se reconnaître de ces familles qui vivent des écarts aussi entre ceux qui ont réussi leur vie, qui reviennent, qui construisent de grandes maisons, ceux qui ont moins réussi. Mais même s'il y a des disputes, même s'il y a des incompréhensions dans la famille d'Alma Viva, il y a aussi beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, on voit à la fin, quand finalement ils arrivent à enterrer leur mère, ils chantent tous ensemble, il y a une réconciliation. Donc les morts aussi sont là pour nous réconcilier, pour réconcilier les vivants à partir du moment où on les honore, on les respecte.
Un film alors rempli de surprises, d'amour et d'intrigues que je vous recommande, qu'on vous recommande avec l'équipe de Thermstadt 2.1. Il est disponible ce mercredi en salle dans toute la France, mais également en Suisse, en Belgique et en Espagne, à des dates un peu différentes, Christelle.
Oui, donc en fait, ce que je voudrais juste dire aux auditeurs, je sais que la pratique d'aller au cinéma est de moins en moins courante. C'est beaucoup plus facile d'aller sur des plateformes, à la télé. C'est très bien, je pense que c'est très bien de voir des films sur les plateformes. Mais le cinéma, c'est quand même un moment où on est dans le noir face à un grand écran. Le son est c'est une expérience assez unique. Donc Alma Viva, allez le voir en salle, ça coûte pas si cher, c'est une dizaine d'euros. Si vous souhaitez, vous m'écrivez sur Insta ou Facebook, si vous n'avez pas les moyens de payer votre billet, je trouve une façon de vous inviter. Je suis très réceptive sur les réseaux sociaux, mais j'ai vraiment envie que les spectateurs se déplacent en salle. C'est important que le cinéma continue d'exister. Je vous invite aussi à une avant-première le 11 avril au MK2 Bibliothèque. Pour ceux qui le veulent, ça va être un peu l'avant-première officielle. L'ambassadeur sera présent, l'attaché culturel et des personnes. Ce sera suivi d'un cocktail. Donc, vous êtes aussi conviés. Il suffit de réserver auprès du cinéma. Et sinon, c'est dans toutes les salles, dans les grandes villes de France à partir du 12 avril. Le 20 avril aux Pays-Bas, Luxembourg et Belgique. Et le 2 mai en Suisse. Et le 5 mai en Espagne, si vous avez de la famille dans ces territoires. N'hésitez pas à leur passer le mot.
Merci Christelle d'avoir répondu à toutes ces questions-là et pour toutes ces informations. Félicitations pour ton film Alma Viva.
Merci à vous et de m'avoir invité.
On va faire une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la fin de cette émission.
Nos caçar e essa dança acabar, só vai sobrar a faca que os dois usamos para nos amar. Se a noite nos caçar e essa dança acabar, só vai sobrar a faca que os dois usamos para nos amar. Nada fica para mim, nada fica para mim.
Se eu não agarrei em ti quando tu estavas a cair, se eu te contasse o que vai aqui, tu já estavas a fugir. Eu ando a sentir falta de ar quando tu não estás aqui. Na cidade a vaguear, estou a sentir-me morto vivo. Eu fui bandido e eu sei disso, estava a fugir ao compromisso. A beijar santas no altar, não me importo, diz que disse. Eu vi a faca a cintilar e gritei calma-te antes disso. Eu tenho amor para declarar e coisas a declarar ao fim. Está escrito no papiro, Deus não me deixa mentir. Eu estava a sentir-me um vampiro até ser mordido por ti. E quando eu já falar sozinho lá no final do caminho,
matou aqui.
Vous êtes sur Radio Alpha pour l'émission Thermostat 2.1. Merci d'être avec nous. Alors avant de se quitter, Julie a une question secrète pour toi, Christelle.
Tout simplement, vu que tu adores le cinéma, que tu en fais, est-ce que tu pourrais me citer ton film préféré ou ton réalisateur préféré ? Une question très compliquée, mais comme ça, ça donnera envie aux gens d'aller en salle.
Je ne vais pas dire préféré, parce que je dirais plutôt celui qui a compté peut-être pour Alma Viva. Cría Cuervos, c'est un film espagnol des années 70 avec une musique trop trop belle sur une petite fille, voilà, Carlos Saura, une petite fille qui vit les disputes de ses parents, le deuil, tout ça.
Et c'est vrai que ça se rejoint.
Et il y a cette chanson hyper connue, tu vois la BO.
Ouais.
Ouais, voilà. Donc je vous invite tous à revoir Cría Cuervos.
Merci beaucoup.
Une réponse très rapide qui nous permet d'enchaîner directement avec toujours Der Sposta Rapide, le jeu de la réponse rapide. Alors, deux propositions, tu dois choisir ce que tu préfères, Christelle. Alors, les séries ou les films ?
Films.
Angèle ou Clara Luciani ?
Luciani.
Stressé ou zen ?
Zen.
Sol Branco ou Campo de Víboras ?
Sol Branco.
Le matin ou le soir ?
Soir.
Le Cap Vert ou l'Angola ?
Cap Vert.
Malise ou Anemol ?
Maryse.
T'es plutôt dans ta bulle ou sociable ?
Sociable.
Et pour finir, le cinéma ou le théâtre ?
Cinéma.
Parfait, merci beaucoup Christelle. D'ailleurs, le cinéma Alma Viva sera en salle ce mercredi en France, donc n'hésitez pas à aller le voir. Merci beaucoup Christelle Avesmera d'avoir participé à Thermostat 2.1.
Merci à vous.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une émission. À samedi prochain.
Ciao, ciao.
Ciao.
À la semaine prochaine. Bonne semaine.